En l'absence d'un projet militant fédérateur pouvant mener à un futur enviable, les forces progressistes en viennent à succomber à un moralisme justicier et réprobateur. On pourrait parler d'un militantisme sans réel espoir de changement. C'est ce que Wendy Brown nommait le moralisme progressiste. Ce moralisme s'incarne dans les interdits individuels, ce qui entraîne la condamnation de certains mots, arguments ou actes, ou alors dont l'usage est restreint à un registre très étroit. S'il est juste de bannir certains comportements ou termes oppressifs courants dans les médias ou dans nos familles, ces interdits s'appliquent encore plus durement au sein même de ces franges progressistes. Ainsi, on se retrouve à critiquer lourdement les militants de nos propres organisations pour chaque erreur lexicale ou faux pas politiquement non correct. J'ai par exemple déjà observé des gens exiger qu'une association distribuant des repas gratuits présente des excuses pour avoir préparé des plats contenant de la viande. Dans mon travail et ma vie militante, il se passe rarement une semaine sans que soit évoqué un conflit absurde autour d'une publication ou d'une prise de parole problématique, générant des demandes interminables d'explications publiques. Ce moralisme progressiste s'incarne aujourd'hui dans une ribambelle de notions-injonctions régulant l'ordre social et sanctionnant les dissensus, celles du safe, de la bienveillance, de trigger warnings ou encore de la radicalité. Tenir une telle critique dans la société occidentale contemporaine où les forces réactionnaires parlent sans cesse de wokisme est particulièrement délicat. À l'origine, ce terme créé dans les milieux antiracistes états-uniens désigne le fait d'ouvrir les yeux sur les structures d'oppression dans lesquelles nous nous trouvons. Apparu en français en 2015, il s'est vu réapproprié par les forces réactionnaires qu'il emploie pour désigner et discréditer les courants de pensée progressistes et les causes œuvrant à la justice sociale, féminisme, antiracisme, antispécisme, etc. Si ces critiques et le dévoiement de cette notion sont ancrés dans l'ignorance, la peur et la lâcheté, cela ne doit pas nous empêcher, de notre côté, d'ouvrir les yeux sur certaines de nos pratiques. Une autre caractéristique du discours moraliste est de se focaliser sur certaines personnes prises individuellement, qui incarneraient l'ordre établi et tout ce que l'on veut combattre, comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc., et de réduire tout simplement le mal à ses cas individuels. La conséquence en est une individualisation des rapports de domination, qui par définition sont pourtant le fruit de dynamiques sociales. Ce phénomène de personnification de nos ennemis politiques s'opère en cohérence avec une société occidentale néolibérale qui prétend reposer sur un ensemble d'individus et non pas de groupes ou classes sociales. Il participe à l'invisibilisation des mécanismes structurels responsables des rapports d'oppression. Certes, les rapports sociaux influent sur les rapports de force qui se jouent dans les relations interpersonnelles, mais les individus à elles seules ne sauraient pas être les uniques responsables car les rapports de domination reposent sur certains niveaux, individuels, mais aussi institutionnels, structurels et historiques. Bien qu'individuellement nous ayons une responsabilité et un rôle à jouer dans l'abolition d'un système de classes et de privilèges, nos marges de manœuvre sont limitées. C'est bien parce que le système peut sembler inébranlable que nous replions sur le niveau individuel. Abattre une personne est plus simple que d'abattre le système qui la soutient. On s'éternise sur ce que quelqu'un a dit ou fait sur les réseaux sociaux au lieu de s'intéresser aux instances du pouvoir politique et économique. On agit comme si les injustices sociales découlait uniquement de la faillite morale de certains, au lieu de reconnaître qu'elles sont aussi le résultat d'un processus historique de construction culturelle, politique et socio-économique du pouvoir. Autrement dit, on s'attaque aux effets des rapports d'oppression, plutôt qu'aux raisons pour lesquelles des systèmes comme le capitalisme ou encore l'impérialisme existent. Les structures de pouvoir et rapports d'oppression, sexisme, racisme, classisme, validisme, etc., sont présentés comme jouant uniquement au niveau individuel, à travers des positions binaires et exclusives, dominantes ou dominées, oppresseuses ou oppressées, opprimées ou privilégiées. Dans cette approche, Chaque couple est pensé de manière cohérente et insécable, chaque terme étant défini dans son seul rapport à l'autre. Les privilèges sont considérés comme le simple opposé de l'oppression. Les dominants sont celles qui dominent les dominés. Penser la réalité selon deux catégories, les bons, les dominés, les victimes d'un côté, et les méchants, les dominants, les bourreaux de l'autre, appauvrit la complexité des rapports sociaux. La première conséquence qu'amène l'usage de ces notions rendues vagues et dichotomiques est la confusion théorique dans laquelle il nous plonge. Les termes d'oppression, domination ou encore privilège devraient être employés dans leur stricte signification pour gagner en force d'analyse. Les revendications en matière de justice sociale se recentrent sur la reconnaissance de l'identité et de la différence. En témoigne par exemple celle qui concerne la possibilité d'inscrire un genre neutre sur un papier d'identité. On observe alors un glissement de la redistribution vers la reconnaissance, faisant ainsi évoluer le féminisme de la deuxième vague vers une variante de la politique de l'identité. Bien que progressiste, ce virage tend à surestimer la critique culturelle au détriment de la critique de l'économie politique. Il y a bel et bien un aspect individuel qui joue dans les rapports de domination. Pour autant, ce n'est pas le seul. Centrer nos luttes sur l'unique prise de conscience de nos privilèges ou, au contraire, de leurs répercussions négatives sur notre vie ne saurait proposer un horizon politique satisfaisant. Pire, cela nous enferme nous-mêmes, les dominés, dans un système de pensée où la figure de la victime remplace celle des battantes, des dissidentes ou encore des révolutionnaires. Les progrès ne sont vus comme pris ou gagnés, mais réclamés et accordés. Ce qui favorise une tendance à se retrancher derrière une épistémologie de la vulnérabilité pour se faire une place dans une société maltraitante. En ce sens, c'est bien là une politique attentiste et tournée vers les institutions qui se développe au détriment d'une politisation du conflit. Cela efface tout d'abord la violence dont nous sommes capables et que nous pouvons infliger à autrui, mais surtout, cela accentue une position passive et fataliste. Nous nous disons qu'à force de leur faire voir nos conditions de vie, les souffrances qu'ils perpètrent, etc., il y aura bien un moment où ils, l'État, les multinationales, les personnes qui détiennent le pouvoir et l'argent, etc., ouvriront les yeux et se rendront compte que ce qu'ils nous imposent est inhumain. Ainsi, sommes-nous entraînés à croire que, passé un certain stade, cette situation s'arrêtera, les inégalités, le capitalisme, le système oppressif, etc. Cette conception nourrit une représentation qui ne pousse pas à agir, mais incite à supporter toujours un peu plus, en attendant qu'il décide d'arrêter. L'un des pendants du moralisme progressiste réside dans le fait que le militantisme quitte peu à peu la rue, les sphères décisionnelles, politiques et économiques, pour investir de plus en plus le terrain du langage et de la symbolique. On traite alors les révolutions dans l'ordre des mots comme des révolutions radicales dans l'ordre des choses. Par exemple, il est devenu courant de voir des publications commencer par une liste de trigger warnings. Si cette pratique semble motivée par de bonnes intentions, se préserver et préserver les autres d'une éventuelle réminiscence traumatique liée à un contenu sensible, elle se fonde pourtant sur des présupposés qui s'apparentent, à mon sens, à des dérives théoriques. Les trigger warnings reposent sur une individualisation des traumatismes, chacun ses propres traumas, et à une lecture psychologisante au lieu d'une lecture structurelle et politique. Des mots comme viol ou inceste tendent à être effacés ou atténués pour éviter toute retraumatisation individuelle. Mais en n'étant plus utilisés comme des outils de description et d'élaboration pour penser une réalité matérielle, ils perdent de leur efficacité pour protéger et nommer un réel pourtant persistant. Les trigger warnings font pour beaucoup appel à la croyance qu'on peut désactiver les réminiscences traumatiques grâce à des sortes d'incantations. Si cette liste n'est pas exhaustive, la personne à l'origine de la publication peut faire l'objet de critiques, voire de remontrances. Cette vigilance constante vis-à-vis du langage, le nôtre et celui d'autrui, permet de se rassurer sur son engagement comme une manière de se distinguer individuellement et de prouver sa valeur en se présentant comme détentrice de la bonne parole. Ce phénomène est renforcé en ligne. Les réseaux sociaux favorisent la starification de personnes et de profils dont il s'agit de suivre les gestes et les idées. Ce militantisme de l'influence, qu'il soit antispéciste, queer ou autre, se nourrit de logiques néolibérales où l'individu devient l'alpha et l'oméga des luttes, la personne qui dicte et la personne qui s'éduque, se conscientise, se déconstruit et se responsabilise. La source est la fin de tout. Le politique se résume alors à une pratique de développement personnel.